Tout d'abord, bonjour, je me présente.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement votre parcours ?
Les portraits ?
Oui, au Tchad, bon, j'ai fait...
Je fais des études pour devenir éducateur sportif, dont j'ai obtenu une bourse par la...
Des portraits ?
Quand on a la chance d'avoir une scolarité...
À ce jour, j'ai continué mon travail, j'ai travaillé...
On pensait que c'était bien pour moi, sans savoir réellement ce que
très tôt,
je
bah, voulais. Ça m'a donné envie d'écrire.
Vous venez d'écouter Laurent Gabarou.
Nouradine Anne.
Et vous m'avez parlé tout à l'heure dans l'introduction du regroupement familial.
Bon, bah, j'ai mappé la foule de
Strasson. Je suis athlète de haut niveau, donc j'ai fait 2 podiums.
Clairement, oui, moi je pense que c'est une chance de pouvoir faire sa scolarité dans un environnement où il y a plus de mixité sociale.
Portrait. Quelle image aviez-vous de la France?
Mais l'image qu'on peut avoir...
Vous pouvez nous expliquer la différence entre l'hiver.
Merci beaucoup d'avoir donné la chance de pouvoir en parler.
Je trouve ça génial.
Merci.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Marmite FM 88.4 pour votre émission Portrait. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous recevons Adama Akili qui nous vient du Niger. Elle est conteuse, comédienne, peintre et elle fait beaucoup d'autres choses. Elle ne nous a pas tout dit et elle va nous raconter aujourd'hui son parcours. Bonjour Adama.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à venir un petit peu vous raconter au micro de la marmite. Alors, on a évoqué déjà un pays, le Niger. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter votre enfance du côté du Niger ?
Je vous remercie aussi de m'accueillir ici à Radio Marmite et je remercie aussi Monico, la conteuse, qui est ma tante.
Car c'est grâce à elle que voilà, vous êtes un peu ici à la Marmite.
Voilà, exactement. Merci. Donc, comme vous l'avez dit, moi, je suis Adama Akili. Je suis comédienne, conteuse et peintre. Je suis nigérienne. Et disons que mon enfance, je l'ai passée au Niger, sous la coupe de mes grands-parents, sous la coupe de mes parents. À mon époque, tous les enfants partaient à l'école. Donc, moi, j'ai été à l'école au Niger. J'ai fait le primaire, j'ai fait le secondaire aussi. Et notre tradition, notre culture, c'est que les petites filles sont toujours aussi à côté des mamans pour les aider, pour apprendre elles aussi, parce qu'elles vont devenir futures épouses, futures mamans aussi plus tard. Donc, j'ai grandi avec ma grand-mère et ma mère. J'ai beaucoup, étant petite, grandi avec ma grand-mère. Donc,
c'était une maison familiale, comme ça se fait souvent?
Non, ce n'était pas une maison familiale. On n'était pas au même endroit, mais ma grand-mère habitait dans un autre quartier et mes parents dans un autre quartier aussi. Donc, j'ai passé beaucoup. Moi, ma jumelle et moi, on était, disons, petite, élevée par notre grand-mère, paix à son âme, qui est décédée maintenant. Et c'est après son décès que nous sommes retournés chez mes parents là-bas.
Alors, avant d'en arriver au conte, parce que évidemment, on sait qu'il y a une très forte tradition de l'oralité en Afrique, qu'on raconte beaucoup d'histoires. Vous n'avez pas commencé par le conte, vous avez commencé par le théâtre. Alors, comment vous êtes venu au théâtre là-bas au Niger?
Voilà, donc quand j'avais terminé ma troisième, donc après le brevet, je n'ai pas eu l'orientation pour aller au lycée. Et donc à cette époque-là, mon papa n'avait pas les moyens pour me payer le lycée. Donc du coup, je me suis retournée parce que moi j'avais fait le CGE8 de Niamey et à côté du CGE8 de Niamey, il y a le centre culturel Omaru Ganda.
Et alors donc, qu'est-ce que c'est le CGE8?
Le CGE8, c'est le collège.
D'accord.
Oui, le collège d'enseignement général. En fait, il y a le CGE1, 2, 3, 4, D'accord. 5, 6. Voilà, donc moi, j'ai fait le CGE8 de Niamey. Et le CGE8 de Niamey, le quartier dans lequel c'est basé, c'est à côté du centre culturel Omaru Ganda. C'est un grand centre artistique là-bas, qui est du côté du quartier Wadata. Et donc, il y a beaucoup d'activités qui se passaient là-bas. Donc, comme il y a une bibliothèque là-bas, et moi, j'ai venu à la bibliothèque de temps en temps. Mmh. Et c'est là-bas que j'ai vu qu'il y a... Il y a une troupe culturelle qui s'appelle Zumunchi qui cherchait une comédienne. Et moi, étant petite, quand je voyais à la télé les actrices de cinéma, ça me plaisait beaucoup. Et la troupe culturelle de l'école, je voulais bien faire partie, mais comme j'étais très loin du collège, donc je ne pouvais pas, mais ça m'a toujours beaucoup intéressée. Et donc, du coup, je n'ai pas hésité. Comme je n'ai pas je ne poursuivis pas mes études, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et c'était l'occasion pour moi, je me suis inscrite dans cette troupe-là pour le théâtre. Et en même temps, au centre culturel Umaru Ganda, il y avait aussi un atelier de dessin et peinture destiné aux jeunes qui veulent. Donc, chaque 3 mois ou chaque 6 mois, comme ça, le directeur amenait des formateurs qui venaient d'Afrique ou d'Europe pour donner des formations. Et du coup, en même temps, je me suis inscrite dans les deux domaines. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé.
Vous avez commencé votre carrière artistique, voilà, le théâtre et la peinture. Et la peinture, et
oui, en même temps.
Alors, comment ont réagi vos parents, justement, quand ils ont appris que vous vouliez vous inscrire dans cette troupe de théâtre et faire du dessin? Peut-être qu'ils avaient un autre avenir qu'ils envisageaient pour vous.
Ah oui, parce que après, quand même, quand je n'ai pas eu le BPC, il faut dire que je me cachais pour aller. Je me suis inscrite pour faire le théâtre et je me suis inscrite également pour faire la peinture en cachette. Mes parents ne le savaient pas parce que après, comme mon papa m'a dit, bon, maintenant que tu ne fais plus l'école, il faut faire l'école coranique. Voilà, l'école coranique, on le faisait les week-ends, mais c'est-à-dire si tu es à la maison, tu ne fais rien. Donc, du coup, il y a l'école coranique que tu fais tous les jours. C'est presque l'école. Tu commences le matin à 8h ou 9h, tu finis à midi, tu reprends de 15h à 16h ou 17h. Voilà, donc ils m'ont inscrite à cette école coranique-là. Voilà, mais comme j'étais chez ma grand-mère, donc du coup, J'ai profité pour aller aux répétitions, pour les répétitions de théâtre. Et j'ai profité aussi pour aller de temps en temps aux formations de la peinture. Mais mes parents n'étaient pas au courant de ça. Ils n'étaient pas au courant de ça. Et du coup, quand je continuais, à un moment, il y a le Centre culturel franco-nigérien qui avait une troupe qui s'appelle le JTN, le Jeune Théâtre Nigérien, qui cherchait une comédienne. Et donc, du coup, ils ont mis une affiche là-bas et la troupe a décidé que c'est moi qui vais partir
avec eux.
Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la troupe du Centre culturel franco-nigérien, le Jeune Théâtre Nigérien. Et en même temps, le directeur en ce moment qui s'appelait Yves Delacroix, ce directeur-là, il était intéressé par la peinture et le théâtre. Parce que vous savez, chaque directeur qui venait, il a sa passion. Il y en a, c'est plus le théâtre. Il y en a, c'est plus la musique. Il y en a, c'est plus la danse, etc. Donc lui, à l'époque-là, il mettait beaucoup plus le paquet sur la peinture et le théâtre. Donc du coup, et quand je me suis retrouvée là-bas, j'ai continué en même temps à faire le théâtre et la peinture. Et lui, en ce moment, il faisait venir aussi des formateurs de différents horizons d'Afrique et d'Europe qui venaient presque tout le temps, qui nous faisaient des formations par rapport au théâtre et par rapport à la peinture aussi. Oui, oui.
Alors, ils ont bien fini par l'apprendre, les parents.
Ah oui, ils ont bien fini par l'apprendre.
Alors,
oui.
Comment ça s'est passé?
Oui, ça s'est passé qu'en 1995, comme la troupe, quand même, on a fait des spectacles, on travaillait beaucoup des spectacles sur Molière, les thèmes comme la jalousie du barbouillé, comme le médecin malgré lui qu'on a mis en scène, mais adapté aux réalités du Niger. Donc, du coup, et en 95, le directeur nous a amenés en France pour 3 mois, enfin, voulait nous amener en France pour 3 mois. Et donc, du coup, pour partir 3 mois, quand même, c'est quelque chose. Il faut que mes parents soient au courant. Donc, du coup, c'est là où ça a été chaud pour moi.
Vous aviez quel âge en 1995?
Ben, j'avais 18 ans.
18 ans?
17, 18 ans, oui. Donc, du coup, voilà, ça a été le branle-bas, comme on le dit, parce que moi, je ne savais pas comment expliquer à mes parents du moment que...
Que vous étiez déjà une grande comédienne, que vous aviez déjà une expérience.
Voilà, j'étais déjà... Oui, et eux, ils ne le savaient pas. Et maintenant, avec l'affiche, ils ont payé les billets d'avion, ils ont fait les affiches, ils ont tout. Donc, du coup, j'ai m'étais... je ne sais plus comment faire. Et du coup, finalement, on avait trouvé une solution parce qu'il y a le directeur adjoint du Centre culturel franco-nigérien qui était parti voir mon papa quand même, qui lui a annoncé la nouvelle. Et j'avoue qu'il était tombé de haut. Au début, il a refusé catégoriquement. Le directeur était revenu encore pour négocier, lui expliquer que quand même nous étions 11 personnes et que moi, dans la troupe, c'est moi qui portais tous les rôles principaux. Et donc, du coup, je ne pouvais pas ne pas aller parce que c'est faire tomber toute la troupe. Mmh. Et donc, du coup, finalement, le papa, il a accepté.
Et, voilà. Et finalement, donc, vous êtes parti, vous avez fait cette première... C'était votre premier voyage en France?
Oui, c'était mon premier voyage en France quand même. Mmh. On a fait le festival Paris Quartier d'été, on a fait Limoges, et puis Toulouse, Orléans, puis nous sommes retournés.
Et ça s'est très bien passé?
Et oui, ça s'est très bien passé, mais après, ça a été chaud pour moi à la maison.
Ah oui, pour le retour.
Après le retour, ça a été chaud parce que mon papa ne voulait pas que quand même je fasse pour lui ce métier d'homme, ce métier qui n'est pas destiné à une femme. Mon papa, c'est un marabout, il est très...
Et très strict.
Très strict par rapport à la religion. Donc, voir sa fille aller par-ci, par-là avec des hommes. Nous étions 11 et parmi les 11, il y a 3 filles. Et du coup, ça ne l'a pas plu. Ça a été très, très difficile, très compliqué pour moi. Déjà que c'était difficile et compliqué après. J'ai continué comme ça, en tout cas, bon gré, mal gré, j'ai continué. Parce que chaque fois que ça n'allait pas, je me rabattais du côté de ma grand-mère et tout. Et du coup, après, ça s'était aggravé parce que le directeur avait fini son mandat, ses 5 ans, et il devrait rentrer. Parce que dans le centre culturel franco-nigérien, il nous a construit des cases. Nous étions 3 dans la troupe à être peintres. Donc, il nous a construit des cases. Donc, on travaillait beaucoup plus. On stockait nos tableaux, nos œuvres dedans. Et au moment où il voulait partir, donc, Et il a dit à chacun de prendre ses œuvres pour les amener à la maison. Et là, ça a encore
choqué. Là, c'était quelque chose encore.
C'était quelque chose encore que mon père de voir des dessins, des tableaux. Et surtout, en ce moment, j'étais tellement très bien dans le dessin. Je dessinais tellement bien. Je faisais des tableaux, je faisais des expositions. Et donc, du coup, avoir des grands tableaux de 1 mètre sur 2 mètres, beaucoup, 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 avec des dessins de femmes, d'hommes de la vie. Parce que j'ai dessiné les femmes dans la vie quotidienne, les femmes au puits, au champ. Ça
a marqué.
Ah, ça a marqué. Ça a marqué parce que il a déchiré mes tableaux, il a jeté.
Ah oui, carrément.
Parce que c'est pas bien de dessiner.
Oui, parce qu'il y a certaines traditions islamiques, enfin certaines interprétations,
voilà,
qui disent que le dessin, la représentation des êtres humains
n'est pas bonne. Donc du coup, il n'était pas déjà que je faisais le théâtre, qui n'est pas un métier pour les femmes, qui est un métier en tout cas à l'époque pour une certaine catégorie de femmes. Donc, et maintenant, avec la peinture, donc, il n'était pas d'accord. Il ne voulait pas que je dessine et tout. Mmh. Voilà.
Adama Akili, conteuse, comédienne, metteur en scène, peintre nigérienne, invitée du portrait de Marmite FM. Alors Adama, vous nous disiez à l'instant comment votre père a détruit, a déchiré toutes vos peintures car il ne voulait pas vous voir évoluer dans ce milieu que l'on considérait comme un milieu masculin du côté du Niger. En tout cas, vous avez réussi à continuer.
J'ai réussi à continuer, mais difficilement j'ai continué parce que j'avais la volonté, parce que je veux le faire. Et puis voilà, j'ai continué difficilement.
Et... Vous aviez le soutien de la grand-mère, notamment.
Oui, la seule personne qui m'a soutenue. Dans tout ce que je faisais, c'était elle, parce que ma famille était contre, mes parents, tout le monde était contre et tout, voilà. Et après, je continuais comme ça. Je m'étais mariée en 98 et je croyais que bon, avec le mariage, ça allait s'arranger, mais avec le mariage, ma belle famille aussi n'était pas d'accord que, en tant que femme mariée, que je continue à faire le théâtre, que je continue à faire la peinture et tout ça.
Pourtant, votre mari était artiste.
Mon mari est artiste, il est comédien, conteur comme moi et opérateur culturel. Mmh. Voilà.
Et donc, malgré ça, la belle famille, c'est-à-dire la famille de votre mari, n'était pas très...
Non. De voir leur belle fille sur la scène, parce que plus les années avançaient, plus j'évoluais dans mes métiers.
Vous êtes monté en grade.
Voilà, je montais les grades. Donc, et plus, on me voyait parce que je passais à la télé, je faisais des tournées. Et donc, du coup, je venais en tournée avec des grossesses de, je ne sais pas, 4-5 mois. Parce que si ça trouvait que j'étais en grossesse et que j'ai fait la tournée, je le fais. Donc, du coup, ça a aussi été compliqué.
Mais oui. Compliqué, mais ça ne vous a pas empêché de le faire. En tout cas, vous nous parliez à l'instant de votre grand-mère. Alors, c'est un personnage aussi important, puisque pour le conte, on y arrive. Elle vous racontait beaucoup d'histoires, comme votre mère, comme beaucoup de gens au Niger. Hein. C'est une tradition.
Oui. C'est notre tradition. C'est-à-dire, étant petite, j'ai beaucoup écouté les contes de ma grand-mère, de ma mère, des autres personnes âgées du quartier ou bien du village. Donc, parce que presque chaque nuit, quand ma jumelle et moi, on était avec elle, chaque nuit, elle nous racontait des histoires. Et le soir, après le dîner, les enfants, parce que vous savez, en Afrique, on vit dans les cours, il y a plusieurs familles qui vivent, donc il y a beaucoup d'enfants. Donc le soir, on est pressé, nous les enfants, de finir de manger, de ranger tout et de venir placer la chaise, le tabouret de la grand-mère. Donc, et puis on amène les nattes. Des moments, quand il fait froid, on rentrait dans la case et au milieu de la case, on mettait un feu, on allumait un feu, on s'asseyait tout autour et la grand-mère devant. Et puis elle racontait des histoires, elle nous racontait. Et nous, on écoutait. Des moments, tout le monde s'endort sur les nattes. Et puis, petit à petit, les mamans viennent pour prendre leurs enfants et les ramener. Et des moments aussi, on va dans la case d'une autre grand-mère et puis qui nous racontait les histoires. Et c'est comme ça qu'on...
Que vous avez été nourrie, en fait.
Voilà, j'ai été nourrie. Et après le décès de ma grand-mère, ma maman a pris la relève puisqu'on était retournés chez elle. Et elle aussi me racontait beaucoup de choses, beaucoup de contes, je veux dire.
Et qu'est-ce qu'elle vous racontait justement à l'époque? Est-ce que c'était des contes un petit peu voilà, pour dire aux enfants de faire attention, d'écouter leurs parents, d'être sage?
Oui, il y a, oui, il y a, elle racontait beaucoup, un peu de tout. Parce que il y a par exemple, quand on fait des bêtises dans la journée et qu'on n'écoutait pas les parents ou quelque chose comme ça, le soir, elle nous raconte, elle nous fait un conte. Par exemple, elle dit c'est l'histoire d'une jeune fille qui est ceci, qui est cela. En fait, en écoutant l'histoire, tu comprends, à la fin de l'histoire, par exemple, tu comprends que ça parlait de toi. Mmh. Et après, elle finit par dire, tu vois, si tu n'écoutes pas les parents ou que tu ne fais pas ci ou que tu ne fais pas ça, voilà ce qui va t'arriver. Et tu comprends. Il y a des moments où, que ce soit ma grand-mère ou ma mère, elle ne gronde pas quand tu fais. Mais le soir, en te racontant, elle te dit les choses et tu les comprends et tu les entends. Mmh. Tu les entends, tu les comprends. Parce qu'elle te dit, fais attention, on ne gronde pas, on ne fait pas ça, mais désormais, fais attention à ce que tu fais.
Et ça donc, marchait.
Et ça marchait. Et ça marchait. Et c'est comme, par exemple, je me souviens très bien, ma maman, par exemple, quand une jeune femme mariée dans le quartier a des problèmes avec son mari, elle, le soir, elle raconte une histoire par rapport à ça. Pour dire à la, pas, elle ne va pas directement dire à la jeune femme, non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais elle raconte une histoire que quand elle, elle écoute, elle sait, ah, voilà.
Ça, c'est pour moi.
Ça, c'est pour moi. Et voilà ce que je dois faire. Voilà ce qu'on me conseille de faire. Et puis, il y a beaucoup d'histoires aussi, les histoires par rapport aux animaux, les histoires où on rit, voilà. Des histoires tristes aussi, où on te raconte, tu es triste, tu pleures.
Donc, le conte a une vraie valeur sociale, éducative.
Éducative. Au Niger. Oui, c'est la distraction, c'est la sensibilisation, c'est la, la formation, c'est tout.
Alors, on le disait, vous avez commencé avec le théâtre, avec la peinture, donc vous avez été nourri avec les contes des grands-mères, des mères et puis des gens autour aussi. Et vous n'étiez pas encore professionnel, vous allez le devenir un petit peu plus tard. Mais c'est venu assez tard, racontez-nous comment. Et là, c'est grâce, c'est un petit peu, on va dire, grâce au mari.
Oui, oui, oui. En fait, je, oui, c'est, je, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je, chaque d'année en année, je montais les grades, je montais les grades. Et finalement, après, après mon mariage, voilà, mon mari, comme je l'avais dit, il était conteur comédien. Et ensemble, lui et moi, nous avons créé un festival. Nous avons fait un festival de contes qui s'appelle le festival Gatan Gatan. C'est le Festival international du conte et des arts de l'oralité de Dogondouchi. Dogondouchi, c'est la ville, c'est le village où mon mari est né.
Voilà. Au Niger.
Au ouais. Niger, oui, oui. Donc, c'est là où se passe tout le festival. Donc, avec lui après le théâtre et la peinture que je continuais à faire, quand je l'ai rencontré et on s'était marié, je continuais toujours à le faire. Et avec la création du festival, je montais encore. Avec le fait que je rencontrais beaucoup, parce qu'on amenait beaucoup de conteurs, c'est un festival international. Donc on amenait beaucoup, on invitait beaucoup des conteurs européens et africains. Donc
avec... Ah oui, d'accord, c'est un vrai festival international.
C'est, oui, c'est un vrai festival. Partout, ouais. Oui, oui, qui venait de partout, de la France, de la Belgique, de du Liban et tout et tout. Et donc du coup, et j'ai eu à rencontrer beaucoup 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 des conteurs, des conteuses. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais du moment que le conte, je l'ai déjà en moi, pourquoi ne pas tenter maintenant faire comme c'est que je... Parce que c'est, j'avoue que c'est quand on a commencé à faire le festival de conte que j'ai commencé à voir des conteurs sur scène, des conteurs professionnels, comme on le dit. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer moi-même à faire ça. Donc, du coup... Et pendant le festival, nous avons eu à inviter M. Hassan Kassi Kouyaté, qui est le directeur du festival Yélène, qui, c'est grâce à lui que nous avons pu mettre notre festival en place.
Alors, donc, le festival Yélène, c'était au Burkina Faso,
oui,
c'est
oui,
ça?
Oui, c'est le directeur du festival Yélène au Burkina Faso, plus précisément à Bobo Dioulasso, donc qui était le parrain de notre festival, parce que c'est dans le démarrage, on l'avait contacté et c'est lui qui nous a aidés. C'est grâce à son coup de pouce que le festival a été mis en place. Donc on l'a invité. Donc du coup, je lui avais parlé de mon intérêt à faire des formations pour pouvoir faire de ça un métier. Et c'est comme ça que lui, il a accepté et il m'a fait venir au festival Yélène où j'ai suivi beaucoup de formations avec
des conteurs
connus comme Françoise Dieppe que j'ai rencontré et qui a été beaucoup 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 pour moi dans mon aventure artistique. Voilà, c'est là-bas que j'ai rencontré, j'ai eu des formateurs comme Jihad Darwish, comme Ludovic,
Ludovic Suleiman, ouais.
Voilà, Ludovic Suleiman, comme beaucoup beaucoup Toumani Kouyaté et Hassan Kouyaté aussi, qui a été un de mes formateurs, Françoise Dieppe, et voilà. Et c'est là-bas aussi que j'ai rencontré une conteuse qui est aujourd'hui ma tante, que je considère comme ma tante qui est là avec moi, Monico.
C'est ce qu'on vous disait là-bas, hein. Pendant que vous étiez en train de vous balader dans le festival, on vous disait, tiens, il y a une blanche qui vous cherche.
Ah oui, parce que je me souvenais, quand j'étais l'année là, j'étais au festival, je me souviens, c'était en 2008. Donc j'étais au festival ILN justement pour une formation à Bobo Dioulasso et chaque fois que je me promenais dans les rues, on me disait « Ah Adama, il y a une blanche qui te cherchait là, elle te cherchait grave, elle voulait te voir parce qu'elle dit qu'il y a une conteuse nigérienne qui est là ». À chaque fois quand je tourne dans une rue, on me dit « Il y a une blanche qui te cherchait ». Et un jour, un matin, je me suis retrouvée nez à nez avec Monico qui m'a dit « Ah ». Je t'ai cherché depuis longtemps. J'ai dit, ah d'accord, donc c'est
oui,
vous.
Monico dont la mère est nigérienne. Oui.
Voilà, donc Monico dont la mère est nigérienne et dont sa mère est de Dosso et mon mari aussi est de Dosso, de la ville. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Monico là-bas en 2008 et depuis lors, on ne s'était pas
Vous n'êtes plus quitté.
Non, non. Et on ne se quittera plus.
Voilà, c'est ainsi que se termine la première partie du portrait consacré à Adama Akili. On se retrouve demain pour la suite.
C'était Portrait. Marmite FM vous a proposé Portrait, des interviews menées par Nouradine Anne.